bienvenue à ce dernier balado de la saison des attachés de presse en ce 26 avril 2023, en ce midi. Aujourd'hui, gros balado des sujets d'actualité historique. On va parler de crise constitutionnelle avec le professeur Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi le directeur des programmes de droit et de politique appliquée de l'État, et pour qui les champs d'intérêt et de recherche sont le droit municipal, le droit linguistique et le droit constitutionnel. Aujourd'hui, on va davantage discuter de droit linguistique et de droit constitutionnel. Bienvenue, Monsieur Rousseau.
Ben merci de me recevoir.
Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va parler un peu de droit constitutionnel. C'est une question qui est quand même relativement historique là, au Canada et au Québec et qui fait surface dans l'actualité récemment. Premièrement, question plus d'introduction, là, dans quel cadre vous vous intéressez ou êtes-vous impliqué dans la question constitutionnelle là, au Canada et au Québec?
À plusieurs titres. Je dirais d'abord en tant que professeur, j'enseigne en droit constitutionnel. Donc, à ce moment-là, forcément, c'est quelque chose que je suis. Donc, je connais les bases parce que je les enseigne. Puis ensuite, ben voilà, c'est toujours bon de faire des liens avec l'actualité quand on enseigne. Donc, je suis ça. J'ai aussi des travaux de recherche. Comme vous le savez, un professeur, c'est à la fois un enseignant et un chercheur et un administrateur universitaire. Donc, dans mon volet recherche, je suis aussi beaucoup dans le droit constitutionnel. J'ai publié notamment une étude en 2017 avec Maître François Côté, qui était étudiant au doctorat sous ma direction à ce moment-là. Et c'était sur la disposition de dérogation, clause dérogatoire, disposition de souveraineté parlementaire. Elle a plusieurs noms. Bref, une disposition particulière du droit constitutionnel canadien. Et on était les premiers à publier une étude aussi exhaustive. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, c'est un exemple de recherche que j'ai publié dans le domaine. Et comme avocat, il m'arrive de plaider dans des causes où il est question de droit constitutionnel également.
Puis si je me trompe pas, vous avez aussi été actif au niveau de la révision de la charte québécoise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, en fait, j'ai été actif essentiellement dans le dossier de la loi sur la laïcité de l'État et de la réforme de la charte de langue française. Et dans les deux cas, les projets de loi qui portaient principalement sur ces lois-là avaient aussi pour effet de modifier la charte québécoise des droits. Donc c'est là où j'ai été impliqué là-dedans. Mm-hmm.
Ben, si je vais relancer justement sur le sujet principal qui nous intéresse, c'est-à-dire la Constitution pour les initiés. C'est quoi une Constitution puis en quoi c'est important?
Donc, quand on parle de Constitution là, de manière très, très large, puis ensuite on pourra aller dans le détail, mais c'est essentiellement les règles qui régissent le politique. Donc, à la fois l'exercice du pouvoir politique, donc le Parlement, comment le Parlement fait pour adopter une loi et tout, mais à la fois les limites au pouvoir politique également, donc avec les chartes des droits, le contrôle de constitutionnalité, contrôle judiciaire plus largement, donc de quelle manière, par exemple, les tribunaux peuvent limiter le pouvoir législatif. Donc, c'est essentiellement ça, le droit constitutionnel, c'est le droit qui regroupe les principes, les règles qui régissent le politique et en particulier l'exercice du pouvoir politique et la limitation du pouvoir politique.
Donc, en résumé, on pourrait dire que c'est la loi fondamentale d'un État sur lequel vont se baser les autres lois.
Ouais, effectivement. Donc, ça, c'est. Donc, moi, j'étais plus sur le fond. Là, ensuite, quand on est plus précis et qu'on parle de constitution formelle, là, souvent, ce qu'on va effectivement associer à la constitution, c'est le fait que c'est une loi au-dessus des autres lois. Donc, ce qui recoupe à la fois ce que j'ai dit et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que puisque c'est la loi qui régit le pouvoir politique, mais en quelque part, il faut qu'elle soit au-dessus du pouvoir politique. Donc, vous avez parfaitement raison. Et sur le plan technique, on appelle ça la supralégislativité. Donc, le fait que c'est une loi au-dessus des autres lois. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle davantage une constitution formelle. Parce que, par exemple, en Grande-Bretagne et à bien des égards au Québec, il y a une constitution qui régit le politique, comme je viens de l'énoncer, mais qui n'est pas nécessairement une loi au-dessus des autres lois, drôlement. Donc, mais effectivement, donc ce à quoi vous référez, c'est davantage une constitution formelle, comme il en existe une au Canada, aux États-Unis, dans une certaine mesure moindre au Québec.
Puis, il y a différentes conceptions de la Constitution, comme vous l'avez mentionné, puis ça dépend vraiment des cultures, des pays. Par exemple, il y a une vision française qui est radicalement différente, puis qui est aussi généralement, en politique aussi, généralement, c'est différent comment la France exerce la Constitution, puis au Royaume-Uni, par exemple.
Ouais.
Puis nous, on est un peu les héritiers de tout ça au Canada. Est-ce que la... Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça dit sur nous, la Constitution canadienne?
Oui, très bonne question. Ça me permet de poursuivre un petit peu sur ce que je disais. Donc, je vous faisais la définition très, très large de Constitution, donc règles, principes qui régissent le pouvoir politique. Ensuite, on était sur la question de la Constitution formelle, donc la loi qui est au-dessus des autres lois. Puis même, on pourrait ajouter que c'est une loi qui est plus difficile à modifier que les autres lois, parce que si elle est facile à modifier, même si elle est au-dessus des autres, on la modifie puis ça règle le problème. Donc, ça ne fait pas vraiment une loi au-dessus des autres lois. Donc, ça, c'est Constitution formelle. Et là, effectivement, ça dépend d'un pays à l'autre. Je disais à l'instant qu'en Grande-Bretagne, ben, ils n'ont pas de constitution formelle au sens qu'il n'y a pas une constitution qui est une loi au-dessus des autres lois qui serait difficile à modifier. Donc, en Grande-Bretagne, il y a une constitution au sens, on dit souvent matériel, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des principes sur le pouvoir politique. Ça existe une constitution dans le sens qu'il y a un pouvoir politique en Grande-Bretagne, donc il y a forcément une constitution au sens large, mais il n'y a pas une constitution au sens de loi au-dessus des autres lois. Donc ça, c'est le modèle britannique autour de la souveraineté du Parlement, dans le sens où, finalement, le Parlement peut tout faire en Grande-Bretagne et ben, le droit constitutionnel, c'est lui qui le fait au fur et à mesure de ses lois, puis de ses usages, puis des règles parlementaires. Alors que le modèle américain, c'est plutôt d'avoir une constitution écrite qui est une loi au-dessus des autres lois et avec une Cour suprême qui l'interprète puis qui est au-dessus du Congrès, à la fois du Congrès national et du Congrès donc les législatures des États fédérés. Alors ça, c'est le modèle américain. Le modèle français, c'est plus proche du modèle américain. On sait qu'ils ont eu une révolution à la fin du 18e siècle dans les deux cas. Et le modèle français, ça ajoute à ça possiblement l'influence de la tradition du droit civil. C'est-à-dire qu'en termes de droit privé, donc qui n'est pas du droit constitutionnel, donc le droit des contrats, le droit familial et tout, en France, on codifie. Donc, on a un code civil comme au Québec. Puis des fois, on a l'impression, quand on regarde le droit constitutionnel français avec une constitution vraiment très, très détaillée, avec des dizaines et des dizaines d'articles, on a presque l'impression que c'est la mentalité civiliste de dire « on va tout codifier ». Qui se reflète dans le droit constitutionnel français. Ouais. Là, au Québec, ben, effectivement, on est héritier de tout ça. Donc, on a à la fois le côté britannique où le trois quarts de nos règles, finalement, sont pas dans une loi au-dessus des autres lois, puis c'est des conventions constitutionnelles, c'est des règles parlementaires, c'est une loi qui est pas au-dessus des autres lois comme la loi sur l'Assemblée nationale. Mais en même temps, on a la Charte québécoise des droits qui est au-dessus des autres lois tout en étant facilement modifiable. Donc, elle est au-dessus des autres lois sans vraiment l'être complètement. Alors là, on est proche du modèle américain, mais pas complètement. Alors, voilà. Alors, effectivement, on est héritier d'un peu ces différentes traditions-là.
Est-ce qu'on pourrait dire que au Québec, c'est un modèle unique ou c'est un modèle qui peut se faire aussi au sein d'autres provinces ou même voire États, étant donné le caractère là, héritier là, de deux différents régimes là, dans l'histoire?
Ouais, bonne question. J'ai l'impression que le droit constitutionnel des autres provinces ressemble à celui du Québec. C'est-à-dire que tous les provinces ont une législature qui n'appelle pas Assemblée nationale. Là. C'est peut-être l'influence de la France qui fait qu'on a appelé notre Assemblée législative Assemblée nationale. Donc ça, c'est un côté spécifique au Québec. Mais sinon, d'avoir un régime britannique, donc avec le mode de scrutin unimodal à un tour, la majorité parlementaire, la ligne de parti, bon, tout ça, c'est pas mal la même chose dans les autres provinces. Avoir une charte des droits, bon, ailleurs, c'est Human Rights Act, mais ça ressemble essentiellement, qui est une loi au-dessus des autres lois, dans le sens que si une autre loi n'y est pas conforme, elle peut être attaquée devant les tribunaux. Mais en même temps, cette charte-là, ou ce Human Rights Act, peut être modifiée par une simple majorité à l'Assemblée législative. Donc, c'est pas vraiment une loi au-dessus des autres lois au niveau de sa procédure de modification. Donc, tout ça, ça ressemble dans les autres provinces. Mais là, quand on va dans le détail, par exemple, ben, notre loi sur l'Assemblée nationale, alors qu'ailleurs, ça va être une loi sur l'Assemblée législative. Nous, dans notre loi sur l'Assemblée nationale, on va dire, voilà le Parlement qui représente une nation avec une histoire, une culture, une langue. Dans les autres provinces, quand on fait une loi sur le Legislature Act, bon, ben on prend pas la peine de dire que la province est une nation. Quoique Saskatchewan puis Alberta, là, ils commencent à des fois adopter des lois qui sont un peu plus fortes au niveau de l'identité et tout, mais généralement, on n'a pas ça. Ensuite, notre charte des droits, elle est spécifique parce qu'elle a des droits économiques et sociaux, ce qui est généralement pas dans le cas dans les autres provinces où on a des libertés classiques, expression, religion et tout. Au Québec, on a un chapitre sur les droits économiques et sociaux. Je pense que c'est unique au Canada. J'ai pas connaissance d'une autre province qui, dans son Human Rights Act, aurait des droits économiques et sociaux. Mais c'est une spécificité québécoise de portée limitée parce que, contrairement aux autres droits, donc les classiques, les droits politiques, droits de vote, les libertés fondamentales, les droits économiques et sociaux ne sont pas au-dessus des autres lois. Donc, si vous dites, ben moi, je trouve que mon salaire minimum est absolument trop bas, vous pouvez pas attaquer le règlement du gouvernement sur qui fixe le salaire minimum en invoquant le droit économique à des bonnes conditions de travail prévues par la Charte des droits. Parce que ce droit-là, parce que c'est un droit économique et social, n'est pas au-dessus des autres lois. Alors que la liberté d'expression, par exemple, elle l'est. Donc voilà un petit peu, le Québec est à la fois très similaire aux autres provinces, mais il y a des petites spécificités qui sont pas négligeables.
Puis il y a aussi la notion de droit collectif, si je me trompe pas, au Québec, qui est peu présente
effectivement,
dans le reste du Canada.
Puis ça, c'est nouveau. Ça a été introduit par la loi sur la laïcité, puis ensuite par la nouvelle Charte de la langue française, donc la loi 96 qui modifie la loi 101. Donc effectivement, on parle de droit collectif. Donc c'est un peu nouveau. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, je pense qu'il y a essentiellement deux, trois choses. D'abord, le droit collectif, c'est d'abord celui du Québec d'exercer une autodétermination, une autonomie. C'est-à-dire essentiellement les compétences québécoises sur l'éducation, le droit civil, etc. C'est un droit que collectivement, les Québécois ont le droit d'adopter. Puis on pourrait dire que c'est plus un pouvoir qu'un droit, mais c'est correct de le présenter comme un droit. Donc, le droit collectif des Québécois d'adopter des lois sur l'éducation, sur le droit civil. On a le droit de se doter d'un code civil. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Bon. Donc ça, c'est un droit collectif au sens d'un pouvoir législatif. Ensuite, dans ces lois-là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aurait peut-être, comme au Québec, un droit collectif à, par exemple, à un État laïque, qui est aussi un droit individuel par ailleurs. Là, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu, mais il y aurait une espèce de droit que la collectivité s'est donné d'avoir un État laïque ou encore un État de langue française. Donc, c'est aussi dans ce sens-là, mais c'est tout nouveau. Il n'y a pas de jurisprudence, donc c'est difficile de dire exactement ce que ça veut dire, mais essentiellement, ce seraient les trois exemples que j'aurais là. Mm-hmm.
Puis ça m'amène à la question qui va être un peu plus transitoire. Là, vous avez bien mentionné le caractère un peu plus distinctif du Québec par rapport à la Constitution, puis on comprend bien l'étendard d'armes un peu au Canada. Est-ce que la Constitution canadienne, en quelque sorte, reflète un peu qui nous sommes? Puis comment qu'on est venu en 1867, en fait, là, lors de l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique? Est-ce que la Constitution là, canadienne... telle qu'elle est, est-ce qu'elle représente l'ensemble des Canadiens?
Parce qu'elle a été, ça, elle a été amendée, tu sais.
Ouais. Donc, deux choses. Donc, essentiellement, 1867, 1982. Donc, il y a eu à travers l'histoire plein de constitutions, plein de modifications constitutionnelles, mais les deux grandes lois constitutionnelles qui nous régissent toujours aujourd'hui, c'est 1867, 1982. 1867, c'est essentiellement les compétences fédérales, les compétences provinciales. Donc, le fait d'avoir une fédération. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose de pertinent dans le sens où le Canada, c'est tellement immense comme pays, le deuxième au monde. C'est tellement différent, évidemment, Québec, reste du Canada. Mais même les provinces entre elles, l'Ouest canadien, c'est pas la Nouvelle-Écosse, bon, etc. Donc, c'est tellement divers, notamment ne serait-ce que sur le plan géographique. Là, après, on peut ajouter d'autres plans économiques, culturels, que voilà. Donc, ça justifie que tout soit pas uniforme d'un océan à l'autre. Fait que je pense que là-dessus, là, ensuite, est-ce que c'est assez centralisé? Est-ce qu'on devrait pas avoir plus de grands programmes sociaux comme la santé, comme les soins dentaires que M. Trudeau et son gouvernement voudraient étendre? Bon, on pourrait, après ça, on peut vouloir plus de centralisation pour plus de grands programmes sociaux qui, le cas échéant, reflètent les valeurs des Canadiens. Ou au contraire, on pourrait vouloir que ce soit plus décentralisé, que le Québec ait plus de pouvoir en immigration, langue, etc. Donc, là, ensuite, on peut débattre un petit peu du degré, mais je pense que sur le principe du fédéralisme, voilà, je pense qu'à peu près personne nous dit qu'il souhaite un État unitaire, uniforme d'un océan à l'autre. Donc là-dessus, je pense que même 150 et quelques années plus tard, c'est encore pertinent d'avoir cette constitution-là, ce fédéralisme-là. Ensuite, 1982, avec la Charte canadienne des droits, encore là, on peut penser que c'est très de son temps. Les libertés individuelles, on est dans une société individualiste, on n'est plus dans une société traditionnelle où c'est la famille avant l'individu, voilà. Donc je pense que cette charte-là, de par son côté très individualiste, elle participe de son temps et des valeurs des Canadiens. Maintenant, est-ce que des fois on va pas trop loin avec les chartes des droits pour les individus, les minorités, mais là, est-ce que collectivement on a assez de valeurs communes? Est-ce que, bon, là, il peut y avoir des débats sur ces questions-là? Puis sinon, si on tombe dans le plus précis, ben c'est sûr que la charte de 82, son problème essentiel, c'est que, évidemment, elle n'a pas eu l'assentiment du Québec. Donc, autant elle reflète bien le Canada dans le sens où il y a des droits pour les francophones des autres provinces, des droits, par exemple, à avoir une école en français, ce qui est quand même pas rien puis qui n'existait pas avant 82, ou du moins, c'était pas constitutionnalisé. Donc ça reflète bien le fait qu'il existe des francophones dans les autres provinces. Ça, c'est bien reflété dans la Constitution. De la même manière que le fait qu'il existe des anglophones au Québec, c'est bien reflété dans la Constitution parce qu'il y a des droits un droit à l'école anglaise au Québec pour les anglophones. Et donc, puis autant 1867, ça reflète aussi bien, comme je le disais, la dualité, parce qu'il y a un fédéralisme pour différentes raisons, mais notamment parce que il y a un État fédéré avec une majorité francophone. Donc là, on avait ça, en fait, le fédéralisme. La Charte canadienne reconnaît ça. Là où la Charte canadienne est peut-être même assurément moins adaptée, c'est ça, c'est que elle tient compte de l'existence des francophones dans les autres provinces, des anglophones au Québec, mais elle tient pas compte du besoin pour le Québec d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus d'autonomie. Puis tu sais, c'est beau défendre le français dans les autres provinces, puis tout le monde en est, puis moi-même, j'ai vécu au Nouveau-Brunswick et tout, puis je suis très solidaire. Mais scientifiquement, quand on regarde la littérature scientifique en politique linguistique, ce qu'on nous dit, là, c'est que quand on veut sauver une langue, donc assurer son épanouissement, une langue minoritaire, il faut concentrer les efforts là où il y a beaucoup de locuteurs, là où les locuteurs sont majoritaires. Donc, autrement dit, la meilleure façon de sauver le français en Amérique du Nord, c'est de s'assurer qu'au Québec, on est vraiment avec un état de langue française, avec des universités, des cégeps, des écoles et tout, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir des droits pour les anglophones, mais à la base, il faut vraiment faire beaucoup pour le français au Québec. Et là, ben, ça va aider les Acadiens qui sont tout près du Québec, ça va aider les Franco-Ontariens, etc. Mais c'est comme ça, une vraie bonne politique linguistique. Et la Constitution canadienne, c'est l'inverse. Elle nous dit, si on veut préserver le français, ça se passe dans les autres provinces. Bon, personne n'est contre. Le français dans les autres provinces, parfait. Mais la Constitution dit aussi, on fait la promotion de l'anglais au Québec. Et c'est là où on tient pas compte du contexte nord-américain. Là. Puis on met sur un pied d'égalité les anglophones du Québec qui ont les meilleures universités, les meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, puis qui sont voilà, extrêmement choyés. On les met sur un pied d'égalité en termes de droits que les francophones des autres provinces, qui ont à peu près pas d'hôpitaux, à peu près pas d'université, à peu près pas de cégep et tout. Donc, ça n'a aucun sens au niveau des politiques publiques, mais c'est ça dans la Constitution et c'est mal adapté à la réalité.
C'était quelque chose qui venait vraiment d'une volonté de Pierre-Elliott Trudeau, ouais. À quelque part, que lui, il voulait vraiment un Canada uni, puis il reconnaissait pas. Il y avait une peur de l'idée de nation au sein du Canada, puis de l'idée de droit collectif, comme on l'a dit. Donc, c'était comme un peu aussi une manière de faire avancer sa nouvelle vision du Canada.
Tout à fait. En fait, son idée, lui, c'était de dire faut pas que les Québécois, que les francophones en particulier, soient enfermés au Québec. Il faut, comme francophones au Canada, qu'on ait l'impression que le Canada, c'est notre pays d'un océan à l'autre. Donc, on n'est pas pris, là, quand on cherche un emploi, c'est pas Québec, Montréal, les régions, là, c'est Halifax, Toronto, Vancouver. Partout au Canada, on va pouvoir y aller. D'où le droit des écoles de langue française. Parce que c'est bien beau de dire demain matin, vous avez une super belle offre d'emploi dans une radio à Toronto. C'est bien, mais si vous êtes pogné pour envoyer vos enfants à l'école anglaise, ça se peut que ça vous tente moins. Puis s'il n'y a pas de radio francophone, ça se peut que ça vous tente moins. Donc, l'idée de Trudeau, de Père, c'était de dire, voilà, il va avoir ce droit à des écoles françaises partout. Puis de la même manière, il va avoir le droit des écoles anglaises au Québec. Donc, un jeune anglophone de Saskatoon va pouvoir avoir un emploi à Montréal puis envoyer ses enfants à l'école anglaise. Donc, ça, c'était l'idée. Maintenant, donc, on voit que c'est très individuel. C'est pour que la personne, l'individu, puisse avoir plein de possibilités de carrière ou autre au Canada. Mais en termes plus collectifs, ça tient pas la route. Parce que si on fait ça, c'est qu'on enlève au Québec des pouvoirs de protéger le français. Parce qu'au début de la loi 101, on disait le droit à l'école anglaise au Québec, c'est seulement pour les anglo-québécois, pas les anglo-canadiens des autres provinces qui immigrent. Et là, Trudeau, avec sa charte canadienne, a ouvert ça. Donc, ce qui nuit à l'épanouissement du français. Puis on se retrouve 40 ans plus tard. Puis, tu sais, remarquez, c'est pas simple. C'est facile de dire, bon, Trudeau est allé trop loin, c'est un individualiste, un libéral et tout. Voilà, c'est pas évident. On cherche tout un équilibre entre protection du français, mais en même temps, on veut des libertés individuelles. Donc, on cherche un équilibre. Puis là, résultat des courses 40 ans plus tard, je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de libertés individuelles, puis que le Canada est reconnu à l'échelle internationale. Par contre, le français recule. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que le constat qu'on peut faire lucidement à la lumière des données, c'est de dire, OK, là, on a peut-être trop été dans les droits individuels, les droits des minorités et tout. Puis le français, ben voilà, il s'en va, il décline complètement. Donc, c'est comme si les tribunaux ont mal dosé. À mon avis, la Charte de la langue française en 77, là, elle avait bien dosé. Il y avait des droits pour les anglophones, il y avait de la protection du français. Puis là, les tribunaux, avec la charte à M. Trudeau, sont venus invalider des pans entiers de la Charte de la langue française. Donc, diminuer la protection du français sous prétexte de protéger... Puis des fois, c'est vrai, les droits des anglophones, des minorités, des droits individuels. En même temps, des fois, ça vient aussi limiter les droits individuels parce que le droit de travailler en français, c'est aussi un droit linguistique fondamental.
Si je peux.
Et donc, mon point, c'est de dire 40 ans plus tard, on voit que le français décline. Donc, il y a quelque chose qui a pas fonctionné dans cette constitution-là parce qu'elle donne des résultats qui sont pas satisfaisants, à mon avis.
Puis il y a une sorte... Ben, moi, en tout cas, j'ai une perception qu'il y a une certaine injustice du sens où on n'a jamais consenti à cette charte-là, à ces faits dans notre dos, si on veut, durant la nuit des longs couteaux en 81, ben en 82 qu'elle a été entérinée au final. Mais après ça, on est quand même soumis à cette loi-là sans y avoir consenti, puis ça vient justement avoir un impact dans comment est-ce qu'on veut rédiger notre société au Québec, dans le fond. Puis on a essayé quand même de bonne foi dans le passé d'avoir des compromis puis de revenir dans la Constitution avec l'accord de Meech ou l'accord de Charlottetown. Puis on a vu qu'un renouvellement du fédéralisme qui soit adapté au Québec, donc un fédéralisme asymétrique dans le fond, n'était pas vraiment, ben, ne semble pas possible à la lumière de l'histoire.
Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que, effectivement, tout ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Moi, je fais toujours la nuance suivante. Parce qu'après ça, certains vont dire, donc, la Constitution canadienne, puisque l'Assemblée nationale l'a pas signée, puisqu'il n'y a pas eu de référendum et tout, elle n'est pas légitime. Moi, je fais toujours la nuance que, dans les champs de compétences du fédéral, les députés québécois fédéraux, qui étaient presque tous du Parti libéral du Canada en 82, ont voté pour la Constitution. Donc, la Constitution de 82, la Charte canadienne, appliquée au Québec, dans les compétences du fédéral, voilà, force est de compter. Si on part de l'idée que même si le Québec n'est pas souverain, le peuple, lui, est souverain, puis il a délégué sa souveraineté aux députés fédéraux dans les compétences fédérales, aux députés québécois dans les compétences provinciales, bon, bien, force est de constater qu'en 82, les députés qui représentaient le peuple au niveau fédéral ont décidé qu'il y aurait cette charte canadienne-là. Okay. Bon, là, ensuite, idéalement, il y aurait eu un référendum et tout, mais ils ont décidé ça. Donc, pour moi, je dis, bon, bien, ça, c'est un fait. Il y a eu une élection avant, après, puis après ça, on n'a pas réussi à réparer ça. Donc, la charte canadienne s'applique dans les compétences fédérales. Il y a eu un vote des représentants du peuple québécois. Voilà. C'est un fait historique. Par contre, dans les compétences provinciales, c'est là que j'ai un problème. C'est là qu'il n'y a jamais personne qui a consenti. On n'a jamais élu personne pour consentir à ce que dans les compétences du Québec, il y ait cette charte canadienne avec les juges nommés par le fédéral pour invalider les lois québécoises, notamment des lois en matière de protection du français. Donc là, il est là le problème, à mon avis. Et ensuite, une fois que tout ça a échoué, une fois qu'on a échoué le référendum de 80, Meech, Charlottetown, référendum de 95, ensuite le réflexe a été de dire, bon ben, ça a échoué, donc passons à autre chose. T'sais, on n'est plus là, les expressions, on peut les multiplier, on n'est plus
on
là.
On va parler d'économie.
Ouais, on va parler d'économie, les vraies affaires. Je pense qu'en anglais, on dirait « let's pretend it never happened ». Là, t'sais, donc, on fait comme si ça n'existait pas. Puis là, on réalise 2-3 recensements plus tard que ouais, finalement, ça existe pour vrai. T'sais. Le Québec a besoin pour vrai de pouvoir. T'sais. Puis si on abandonne ce combat pour l'autodétermination du Québec, ben c'est pas vrai que le fédéral, avec ses compétences, puis la Cour suprême, puis ses juges vont comme respecter le français, là, super, puis ça va bien aller. Non. Si le Québec se bat pas pour son autodétermination, je veux dire, il y a personne qui va se battre à sa place pour le français. Là. Le fédéral le fait dans les autres provinces, bravo, mais pas au Québec. Mmh. Donc là, moi, je dis, c'est pour ça que c'est le retour. Autrement dit, le retour de la question constitutionnelle, c'est pas seulement des intellos puis des profs de droit constitutionnel, même si on peut aider, qui ramènent la question. Tu sais, c'est comme, non, il y a une vraie question. Là. Démographiquement, c'est une vraie question. Puis là, les gens qui veulent travailler en français, ben là, ils réalisent que, ouais, OK, finalement, il faut que je sois vraiment bon en anglais si je veux avoir tel ou tel emploi. Puis là, ouais, là, c'est plus une question que théorique. Je pense que c'est ça qui a mené la question nationale, début des années 2000, avec un troisième référendum ou pas, condition gagnante. C'est devenu comme complètement ésotérique. Ça parlait plus au vrai monde. Donc, d'où le fait que le PQ a pas été réélu, qu'il n'y a jamais eu de troisième référendum. Mais là, ça revient. Là. On réalise que, non, c'est une vraie question. Tout ce qu'on a fait, tout ce combat-là, c'était pas juste des intellos technocrates hauts fonctionnaires à Québec là, qui voulaient plus de pouvoir, un peu comme le présentait parfois Jean Chrétien. Non. Il y a vraiment un peuple avec une identité, une langue, une culture. Puis s'il n'y a pas les pouvoirs pour l'épanouissement de cette langue et cette culture-là, ben cette langue et cette culture-là vont dépérir, vont devenir plus minoritaires que jamais.
Puis cette idée-là, ce constat-là que vous faites, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être indépendantiste. Il s'agit seulement d'affirmer puis de faire les mesures minimum justement pour se maintenir. Puis justement, là, on voit la CAQ qui agit dans un certain degré sur ce dossier-là, qui se dit nationaliste, qui se dit à un certain degré autonomiste également. Et comment est-ce que vous voyez justement sa pratique depuis qu'elle est arrivée au pouvoir sur cet enjeu-là?
Donc, la CAQ, il y a deux choses. D'abord, il laisse tomber l'idée de référendum et tout, avec, bon, souveraineté et tout. Monsieur Legault laisse tomber ça. Donc, on pourrait penser que c'est comme une façon de finalement, justement, de passer aux vraies affaires, de faire un petit peu comme le Parti libéral avant lui. Mais en même temps, faut comprendre que tant que le Parti québécois était très fort, puis qu'il promettait un autre référendum, quel effet ça avait? Concrètement, ça avait pour effet de permettre l'élection du Parti libéral. T'sais, c'est ce qu'on a vécu là, entre 2003 puis 2018, pratiquement avec une exception près. C'est que, donc le Parti québécois avait un bel idéal de souveraineté pour protéger la langue française et tout, Mais son idéal, dans les faits, le résultat que ça avait, c'était de d'élire un gouvernement qui avait exactement les buts opposés. Donc, un grand sociologue, Max Weber, il faisait la distinction entre l'éthique des convictions, donc aller en politique, puis présenter ses vraies convictions, puis vraiment en faire la promotion, puis l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire, regarder, OK, c'est quoi le résultat de mes gestes au-delà de mes belles idées? Puis le PQ, c'était ça, c'était qu'il y avait des belles convictions, puis éthique de conviction, là, 10 sur 10, mais éthique de responsabilité, pas loin de 0 sur 10, parce que le résultat concret de l'action du Parti québécois, c'était de permettre l'élection du Parti libéral qui faisait exactement tout le contraire des convictions des péquistes. Mm-hmm. Fait que là, mané, M. Legault, il arrive, il dit, ben garde, on va arrêter de parler de référendum parce que si on fait ça, on perd l'élection, puis c'est les libéraux qui sont là, puis qui font reculer le français, puis la culture québécoise et tout. Donc, on va proposer une voie autonomiste. Donc ça, donc le constat de base est pas fou. Puis là, ils arrivent, puis ben effectivement, ils font des politiques beaucoup moins nuisibles, beaucoup plus favorables aux Français que celles des libéraux. Là ensuite, sur la question constitutionnelle, ils ont par contre comme laissé tomber l'idée de renégocier, de demander au fédéral, aux autres provinces, parce que le Québec, là, demain matin, il peut adopter une motion à l'Assemblée nationale pour dire on demande la révision de la Constitution, on demande plus de pouvoir en immigration, en langue, en culture, tout ce que vous voulez. Le Québec peut demain matin déposer une motion. Puis là, ben, après ça, les autres provinces puis le fédéral ont un certain nombre de mois, là, il me semble que c'est 2 ou 3 ans, pour adopter la même motion pour que ça devienne. Bon, évidemment, ça marcherait probablement pas si c'est pas préparé d'avance et tout, mais il pourrait le faire, il ne l'a pas fait. Donc, la CAQ a décidé de ne pas prioriser la modification constitutionnelle. Il a fait des petits trucs, là, il est allé chercher un petit comité consultatif qui a un petit peu d'influence sur la nomination des juges de la Cour suprême, ce qui est lié à une revendication constitutionnelle traditionnelle du Québec. Donc, il a fait des petits trucs, mais essentiellement, en termes de négociation puis de réforme constitutionnelle du texte de la Constitution canadienne, il n'y a à peu près rien fait. Par contre, ce qu'a fait le gouvernement de la CAQ, qui, à mon avis, marche plutôt bien à date, c'est ce que j'appelle l'unilatéralisme. C'est-à-dire, plutôt que de faire des référendums, plutôt que de demander au Canada anglais, au fédéral, s'il vous plaît, voulez-vous modifier la Constitution, s'il te plaît, merci, mon oncle, le Québec dit, ben là, nous, on va agir. On va arrêter de demander la permission. Vous, on veut une loi sur la laïcité, on veut une loi sur la langue française, on va mettre la disposition de souveraineté parlementaire. On va arrêter de se plaindre qu'il y a une charte canadienne qui nous a été imposée, alors qu'elle nous a été imposée avec la possibilité de s'en libérer pour une bonne partie des articles, puis on va s'en libérer du contrôle de constitutionnalité des juges nommés par le fédéral en matière de langue, en matière de laïcité, en matière de pension pour certaines femmes retraitées qui ont des avantages qui sont peut-être discriminatoires. Bref, dans certains dossiers, on a décidé que on mettait la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on arrêtait d'appliquer la Charte canadienne à certaines lois québécoises. Voilà. Donc ça, c'est concrètement un gain d'autonomie sans avoir à demander. Là, ensuite, il y a eu d'autres exemples, l'abolition du serment. Puis là, on a carrément modifié le texte de la Constitution canadienne. Donc, on a arrêté de demander au fédéral, de demander aux autres provinces pour être gentils avec nous. Non, ils ont décidé, bang, on dépose un projet de loi, puis on décide que nous, unilatéralement, on peut la modifier, la Constitution canadienne. On met la nation québécoise, on met la langue française au Québec, on enlève le serment au roi. Boum! Puis à date, ça fonctionne. À un moment donné, ça va être contesté devant les tribunaux là, pour les aspects autres que le serment au roi. Peut-être que ça atteindra ses limites. Pour l'instant, ça fonctionne.
Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les clashs? Est-ce qu'il va y avoir des tensions, les compromis qui pourraient être faits? En fait, c'est quoi le futur?
Ouais.
Face à ces vues.
Très bonne question. Donc là, ce qui peut arriver, c'est que ces lois-là soient contestées. Donc dans le cas de la loi 21, c'est arrivé. Dans le cas de la loi 96, c'est arrivé. Dans le cas de la loi abolissant le serment au roi, c'est pas arrivé. C'est pas contesté pour l'instant. Donc c'est ça. Donc là, ces lois-là sont contestées. En même temps, dans le cas de donc il y a essentiellement deux choses au-delà. Il y a les trois exemples, mais qui recoupent deux éléments. Donc à la fois la disposition de dérogation, dont le fait pour le Québec de dire telle ou telle loi, on permet pas aux juges nommés par le fédéral de les invalider pour cause d'incompatibilité avec la Charte canadienne. Donc, loi 21, loi 96. Puis ensuite, il y a la question de le Québec modifie le texte de la Constitution canadienne, des aspects qui le concernent, lui, le Québec, mais sans demander aux autres provinces, sans demander au fédéral, ce qui est l'exemple à la fois de la loi 96 avec la nation québécoise, la langue française dans la Constitution canadienne et le serment au roi qui est aboli pour le Québec, donc modification à la Constitution canadienne. Donc, c'est nos deux exemples. Dans le premier cas, c'est déjà contesté, mais pour l'instant, ça a passé le test. Donc, le juge de première instance dans le dossier de la loi sur la laïcité avait l'air pas particulièrement favorable à la loi, ça n'en est pas vraiment caché, mais il a dû reconnaître que le Québec a le droit, que c'est prévu, article 33 de la Charte canadienne, le Québec peut décider de protéger sa loi contre des jugements des juges nommés par le fédéral. Donc, ça a passé le test, première instance. Là, en appel, évidemment, les gens qui sont contre la loi reviennent avec leur argument et Voilà. Donc là, on attend le jugement de la Cour d'appel d'un jour à l'autre. Et moi, j'ai comme l'impression que la Cour d'appel va donner raison au Québec. Entre autres parce qu'il vient d'avoir un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans une affaire électorale où on a dit effectivement le gouvernement de l'Ontario peut utiliser la disposition de dérogation ou de souveraineté parlementaire. Donc, ce serait surprenant, pas impossible, mais surprenant que la Cour d'appel du Québec contredise la Cour d'appel de l'Ontario à quelques semaines près. Donc, je m'attends à ce que, plan suite à la Cour suprême, et c'est là que la Cour suprême, parce que pourquoi la Cour supérieure et la Cour d'appel donnent raison au Québec, c'est que la Cour suprême avait donné de raison au Québec dans l'usage de la clause dérogatoire pour protéger la Charte de la langue française en 88. Donc, normalement, les règles de droit continuent de s'appliquer. Il n'y a pas eu de modification constitutionnelle, donc c'est toujours vrai. Mais là, il y en a qui plaident, le contexte a changé. Maintenant, il y a une montée du populisme. Donc là, il faut absolument arrêter ces gouvernements autoritaires-là. Là, c'est un petit peu ça leur argument, très politique.
C'est l'idée de Justin Trudeau, où il a évoqué l'idée d'enlever la possibilité de faire une disposition de dérogation qui est l'équivalent de la disposition de souveraineté parlementaire.
Oui, effectivement, c'est les deux termes que j'utilise. Mm-hmm.
Donc, de l'enlever pour le niveau préalable, c'est
ouais,
ça?
Oui, effectivement. Donc, ce que dit M. Trudeau, puis sans doute ce qu'il va défendre en Cour suprême au sujet de la loi 21, c'est de dire, vous pouvez utiliser la disposition de souveraineté parlementaire dite de dérogation pour dire, on refuse un jugement de la Cour suprême. Donc, comme en 88. En 88, la Cour suprême dit, vous n'avez pas le droit d'exiger l'affichage en français exclusif au niveau commercial. Là. Vous n'avez pas le droit de faire ça au Québec. C'est contraire à la liberté d'expression. Donc, la Cour suprême décide ça. Le lendemain, le gouvernement Bourassa dit non. Nous, on pense que pour préserver le français, on va permettre l'affichage bilingue à l'intérieur du commerce, mais à l'extérieur du commerce, là où ça envoie l'image que tout le monde, c'est ça, dans les lieux publics, vraiment commercial. Donc, pas l'affichage politique, religieux, vraiment commercial. Les multinationales qui arrivent au Québec, là, on leur dit non, vous, ça va être en français uniquement. Même si la Cour suprême n'est pas d'accord, on met la clause dérogatoire. Et donc Bourassa, cette fois-là, l'a mis après. Et là, M. Trudeau dit, ben, ça, c'est correct de la mettre après, mais pas avant. Pas de dire, ben, nous, on veut juste pas de contrôle de constitutionnalité. On veut même pas l'avis de la Cour suprême. Peu importe ce que la Cour suprême pense, nous, on veut protéger le français de telle manière, on n'attend pas le jugement de la Cour suprême. Donc, ce qu'on appelle l'usage a priori, ce qu'a fait le gouvernement actuel avec la loi 96. Et là, moi, dans mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est que dans un peu plus de 100 cas d'usage de la clause dérogatoire, si on compte les deux chartes, ou dans le cas de la Charte canadienne, un peu plus de 40 cas d'usage, ça a toujours été fait avant, sauf la fois que je viens d'énumérer avec M. Bourassa. Okay. Donc, voilà. Donc, il y a plein de précédents qui disent de non. Puis, il n'y a rien dans le texte. Tu sais, c'est pas écrit dans 33, ça dit pas après le jugement, vous pouvez utiliser le présent article. Non, il n'y a rien de ça. Donc, ce serait purement. Autrement dit, ce que M. Trudeau essaie de faire, c'est modifier la Constitution. Mais sans négocier avec
sans
les provinces.
Ouvrir, ouais.
Juste en demandant au juge qu'il a lui-même nommé d'ajouter des mots dans la Constitution. Donc, c'est assez audacieux.
C'est intéressant parce que ça revient à la notion de gouvernement des juges dont on accuse souvent le Canada au niveau fédéral d'être. C'est-à-dire que on va dire, bon, ben vu qu'on peut plus rouvrir la Constitution parce qu'on est bloqué à cause du vide du Québec, ben on va utiliser de l'activisme judiciaire davantage. C'est ça, dans le fond, l'approche qui est priorisée.
Effectivement. Donc, l'idée, c'est de dire une constitution, faut que ça évolue dans le temps. T'sais, on n'est plus la même société qu'on était en 1867, on n'est plus la même société qu'on était en 1982. Donc, il faut que l'interprétation de la constitution évolue. En 82, on voulait peut-être pas que le droit à la vie ou à la sécurité ou la liberté, ça donne le droit à l'avortement. Maintenant, on est d'accord. Donc, faut que ça évolue. Bon, peut-être qu'idéalement, on dit démocratiquement, ce serait pas mieux qu'on se réunisse, province, fédérale, on modifie le texte, il y aurait un référendum, tout le monde serait d'accord, ce serait encore plus démocratique. Mm-hmm. Oui, mais peut-être que ça serait plus long, puis à la limite, ça pourrait échouer. C'est donc, ça. Des fois, ça peut être bon que les tribunaux fassent évoluer les textes. Mais s'ils font trop, puis qu'ils font n'importe quoi avec les textes, ben là, c'est comme si la Constitution ne serait plus au-dessus du judiciaire. Parce que, tu sais, on disait tantôt, la Constitution est au-dessus de la primauté du droit. Tu sais, tout le monde doit respecter le droit. Le gouvernement ne peut pas décider qu'il fait n'importe quoi, puis qu'il donne des contrats à ses amis. Non, c'est légal, bang, on va devant le tribunal, on poursuit le gouvernement. Si sa loi ou son contrat est illégal, on le fait déclarer illégal. C'est ça la base de l'état de droit. Mais si les juges font tellement d'interprétations créatives qu'eux-mêmes sont plus liés par la Constitution, ben là, on tombe non seulement dans un gouvernement des juges, mais même un gouvernement potentiellement autoritaire.
Ben oui.
Donc, faut pas aller là non plus. Donc, il y a comme une espèce d'équilibre à trouver dans oui, il faut que les juges, avec l'interprétation, quand c'est pas clair, qu'ils fassent évoluer. Mais faut pas non plus qu'ils fassent n'importe quoi, puis que quand c'est hyper controversé, puis que le texte de la Constitution leur permet pas d'aller là où ils veulent aller, faut qu'ils fassent preuve de retenue, à mon avis.
C'est intéressant, vous parlez d'autoritarisme, démocratie, parce que la disposition de dérogation, elle doit s'inscrire dans le cadre de ce qu'ils disent une société libre et démocratique, si je me trompe pas?
Pas tout à fait, dans le sens où il y a deux choses dans la Constitution. Il y a l'article 1 qui permet de justifier une limitation à un droit dans une société libre et démocratique. Donc, par exemple, au Québec, on pourrait dire, ben là, nous, on limite l'affichage en anglais, là, des commerces, on limite ça, mais c'est justifié dans une société libre et démocratique parce qu'on veut protéger le français. Puis là, il y a tout un test, puis là, les tribunaux pourraient nous dire oui, puis effectivement, pour l'affichage bilingue, même deux fois plus gros en français qu'en anglais, ça a été permis, on a dit, ça passe le test de l'article 1. La clause dérogatoire, c'est autre chose. Si on dit, on veut même pas votre test de l'article 1 où on va demander au tribunal la permission, puis on dit au tribunal non, c'est justifié, c'est proportionné, c'est rationnel et tout. Non, on va juste fait que c'est autre chose. Okay. Ensuite, souvent, ce que dit le gouvernement, c'est que ben oui, il met la clause dérogatoire, mais c'est pas parce qu'il est antidémocratique ou antilibéral. Puis souvent, il va présenter ça comme s'inscrivant dans une société libre et démocratique. Donc, ce que vous dites n'est pas complètement faux, loin de là, mais c'est quand même deux dispositions distinctes.
OK. Puis il y a aussi deux conceptions différentes de la démocratie, dans le fond, parce que là, on parle de justement d'activisme judiciaire puis de place importante des juges. Mais au final, si on procède pas par référendum ou on néglige la souveraineté parlementaire, ben à quelque part, c'est une autre conception de la démocratie qui est la volonté populaire qui est pas respectée à quelque part aussi, tu sais, dans ce principe-là. Donc, puis en même temps, ben, si on va à l'autre inverse, ben là, ça peut devenir une tyrannie de la majorité s'il y a pas un équilibre avec les juges puis la Constitution. Donc, trouver un équilibre à travers ça dans deux perceptions différentes du droit plus canadienne, plus québécoise, ça m'a l'air d'être un foutoir, là.
Ouais, c'est pas évident.
Ouais.
Ben en fait, c'est ça, c'est de chercher l'équilibre. Tu sais, je pense pas qu'on veut nécessairement un système un peu à la britannique où c'est 100% souveraineté du Parlement. Puis je suis pas sûr qu'on veut un système à l'américaine où c'est 100% suprématie judiciaire. Puis là, du coup, ben la Cour suprême, elle vient forcément super politique parce que toute la politique se passe là, donc chacun veut y faire ses nominations. Donc je pense pas qu'on veut ces deux extrêmes-là. Ce qu'on a au Canada, au Québec, de manière un peu différente, c'est une espèce d'équilibre. Donc par exemple, la fameuse clause dérogatoire, ce qu'elle dit, c'est... clause dérogatoire s'applique, donc c'est la souveraineté parlementaire qui peut l'emporter pour les articles 2, 7 à 15. Donc, en gros, les libertés fondamentales, expression, religion, machin, et le droit à l'égalité. Donc, pour ça, on dit, c'est la souveraineté parlementaire, c'est la démocratie, les électeurs qui décident. Pour les articles 3 à 6, 16 à 23, droit de vote, droit de se présenter aux élections, droit à l'école dans langue de minorité, ça, c'est suprématie judiciaire. Mm-hmm. Dans ces domaines-là, c'est la Cour suprême qui a le dernier mot. Pas le peuple. Bon, à la limite, le peuple peut avoir le dernier mot parce que si le peuple des provinces puis du fédéral s'entendent, ils peuvent modifier la Constitution puis renverser un jugement de la Cour suprême. Ouais. Mais c'est très difficile, c'est un peu théorique. Donc, dans les faits, l'équilibre canadien, c'est de dire 2, 7 à 15. Donc, les grandes libertés fondamentales, ce sont les parlementaires qui décident ultimement. Puis alors que les droits démocratiques, droit de vote, d'éligibilité et les droits linguistiques, c'est la Cour suprême qui décide. Ouais. C'est l'équilibre canadien. Au Québec, c'est toute la souveraineté parlementaire qui décide parce que la Charte québécoise, il y a pas de la clause dérogatoire s'applique partout puis elle peut être modifiée. Donc, c'est différent au Québec dans ses compétences, mais au Canada, on a vraiment cet équilibre-là.
Si je peux aller, parce que là, je vois que le temps avance quand même, je voudrais qu'on parle. Là, on a parlé, là, c'est en première instance, puis ça monte en deuxième, ça peut monter jusqu'à la Cour suprême après pour les lois qui sont contestées en ce moment du Québec. Mais supposons que la Cour suprême charcute ou invalide carrément les lois 21-96, puis peut-être même le serment du roi. Qu'est-ce que le gouvernement Legault, après ça, pourrait faire? Est-ce qu'il pourrait faire, comme dans le temps de Bourassa, de faire ressortir des consultations du peuple pour voir quelle avenue on prend? Est-ce qu'il pourrait virer indépendantiste? Qu'est-ce qui pourrait arriver au niveau du gouvernement Legault?
Ouais, effectivement, donc il y a tout un spectre de réactions possibles de... disons, dire on est très très fâché puis après ça le lendemain changer de sujet. C'est ça, ce serait la réaction minimale. La réaction maximale, ce serait déclaration unilatérale d'indépendance. Ça risque pas d'arriver. Donc bon, entre ces deux extrêmes-là, effectivement, je pense que le gouvernement Legault pourrait s'inspirer du gouvernement Bourassa à l'époque où avait échoué ses tentatives de réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Bourassa? Il a lancé une vaste commission Bélanger-Tampeau de dire on va réunir des gens de tous les partis, des gens de la société civile, des anciens du mouvement Desjardins, de syndicats, de chambres de commerce, etc. On va réunir cette commission-là, on va aller consulter les Québécois dans les régions et tout, puis on va essayer d'ensemble de se trouver un consensus, puis là, de se trouver une solution. Puis là, on pourra mettre ça à table deux, trois hypothèses. Est-ce qu'on relance une possibilité de modification constitutionnelle pour avoir le droit à l'autonomie en matière de laïcité ou de langue? Est-ce qu'on met la clause dérogatoire partout? si tant est qu'elle existe encore après le jugement hypothétique contre la loi 21, la loi 96, bon, est-ce qu'on la met partout, comme avait fait le gouvernement Lévesque après le rapatriement unilatéral? Okay. On met la clause dérogatoire partout pour éviter qu'elle s'applique, puis aussi pour faire part de notre mécontentement au reste du pays. Ou est-ce que... voilà, donc là, on pourrait mettre sur la table plein de solutions comme ça. Donc, consulter les gens, que ça peut durer un an ou deux. On gagne du temps, un peu, c'est un petit peu ce que Bourassa avait fait, mais là, ça pourrait ne pas se terminer comme Bourassa, qui finit par finalement gagner du temps, attendre que ça s'éteigne, puis juste rien faire, et permettre l'élection d'un gouvernement souverainiste qui nous mène à un référendum. Donc ça, c'est une possibilité où le gouvernement Legault décide de prendre les résultats, le rapport de cette commission-là au bout de 2 ans de mobilisation des Québécois et tout, puis de se donner un rapport de force pour aller chercher une modification constitutionnelle ou agir unilatéralement, se donner une constitution du Québec qui aurait pour effet d'accroître l'autonomie du Québec, ce qui est pas évident, parce que normalement, une constitution québécoise, ça a plutôt pour effet de limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale puis d'en donner plus aux juges nommés par le fédéral. Mais on pourrait peut-être imaginer une forme de constitution québécoise qui vient ajouter des pouvoirs au peuple ou au Parlement québécois.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, l'idée de constitution québécoise, je trouve. Surtout, ouais, vas-y, Marco.
Oui, là, on voit vraiment plus la perspective québécoise, mais aussi, on le voit aussi à l'extérieur du Québec. Là, il y a, surtout dans l'Ouest canadien, ouais, de plus en plus un fort nationalisme, là. On l'a vu d'ailleurs avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
Exactement.
Vraiment, là, qui aussi, en fait, prend un branle-combat face au fédéral via la clause dérogatoire puis tout ça. Est-ce qu'on pourrait voir, littéralement, là, c'est vraiment hypothétique, puis je pense pas que ça va arriver, mais un front commun de certaines provinces à dire, ben la Constitution, là, ben ça fait pas tant notre affaire aujourd'hui, puis on aimerait ça la changer, ou la modifier, mais pour tout le monde, là.
Effectivement,
juste pour le Québec.
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a eu l'adoption de la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, si je me souviens bien de son titre. La Saskatchewan, il y avait un Saskatchewan First Act, donc une loi sur la Saskatchewan d'abord. Donc, dans les deux cas, c'était des lois autonomistes, donc qui visent notamment là, à limiter un peu, surtout dans le cas de la loi albertaine, à limiter les ingérences du fédéral. Donc, effectivement, donc il y a une volonté autonomiste, unilatéraliste de ces provinces-là d'aller de l'avant. Donc, moi, je suis surpris qu'on n'ait pas entendu le Québec plus s'allier à ces provinces-là dans le contexte actuel. Si tant est qu'on avait un jugement contre la loi 21 ou la loi 96 de la Cour suprême, là, peut-être effectivement que ce serait une autre voie d'essayer pour le Québec de s'allier à d'autres provinces. De toute façon, techniquement, il y aurait besoin de 6 autres provinces pour faire une modification constitutionnelle. Donc, ça irait un peu de soi si on allait vers cette voie-là. Mais déjà, il y aurait lieu peut-être d'avoir plus de discussions. Bon, c'est sûr que des fois, ces provinces-là, bon, autant des fois, on peut s'entendre sur certaines choses, mais tu sais, quand leur objectif, c'est d'avoir plus d'autonomie pour faire des politiques moins favorables à l'environnement, ben, le Québec, ça lui tente pas de s'associer à ça. Quand c'est pour couper la péréquation, qui profite au Québec, c'est pas évident. Donc,
c'est ça, c'est pas les mêmes valeurs.
C'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes intérêts aussi, mais peut-être qu'à certains égards, oui, tu sais, il reste que empêcher le fédéral ou limiter les possibilités fédérales de ce qu'on appelle utiliser le pouvoir de dépenser. Donc, le fédéral qui utilise son argent dans les compétences des provinces en imposant ses conditions, ce qui est comme une espèce de façon de contourner la Constitution avec ses compétences provinciales. Là, il y aura peut-être moyen sur des enjeux limités de faire une espèce d'alliance Québec, province de l'Ouest, mais drôlement, on sent pas ça à l'heure actuelle.
Puis aussi, depuis quelques années, on a vraiment eu une émergence de la question autochtone. On est plus sensibilisé à ça. Il y a plus de revendications qui ont lieu au niveau des nations autochtones. On revendique le droit à l'autodétermination. On sait qu'il y a une grande multitude de nations au sein du Canada. Au Québec, il y en a 11. Est-ce que ce serait possible, là il y a 2 avenues possibles, on parlait de constitution québécoise, réforme de la constitution canadienne, soit de réformer la constitution canadienne pour inclure les nations autochtones, ou dans une constitution québécoise, faire quelque chose d'assez original, mais qui existe déjà, comme par exemple en Bolivie, de constituer une sorte de république plurinationale où on reconnaît ces nations-là à part entière.
Ouais, donc très intéressant, 2-3 choses. D'abord, faut pas oublier le point de départ, donc le droit actuel. Ce qui est arrivé en 82, c'est que le Québec, donc, qui cherchait depuis au moins les années 60 à accroître son autonomie, a vu finalement une nouvelle constitution qui est venue limiter son autonomie. Donc, ça a été une perte pour le Québec, la nouvelle constitution, puis ensuite une perte pour le français et tout. Donc, le Québec est le grand perdant de la constitution 82. Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, il essaie de contre-attaquer avec référendum sur la souveraineté ou des tentatives de modification constitutionnelle. Alors que les Autochtones sont plutôt dans les gagnants de 82. C'est-à-dire qu'il y a l'article 35 qui a été ajouté qui dit en gros, c'est un peu vague, là, mais on doit respecter leurs droits ancestraux et tout. Et là, à partir de là, qui était un petit peu vague, on savait pas trop ce que ça voulait dire, ben là, ils ont fait de l'activisme judiciaire. Depuis ce temps-là, les jugements de la Cour suprême s'accumulent puis donnent toujours plus d'autonomie. C'est pas parfait, puis encore plein de limites, puis c'est loin d'être parfait la situation autochtone, notamment au niveau socio-économique, mais au niveau strictement constitutionnel, sont continuellement en gain. Donc, ça va de mieux en mieux, c'est loin d'être parfait, mais on sent là, que donc pour eux, la voie de l'activiste judiciaire, à partir des textes actuels, fonctionne plutôt bien. Trop lentement, c'est coûteux, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être pas une priorité pour eux de dire, ben là, on veut un troisième ordre de gouvernement autochtone dans la Constitution, un peu comme à l'époque de Charlottetown, il était question. C'est peut-être pas une priorité pour eux parce qu'il y a une autre voie, plus réaliste, même si elle est pas parfaite. Fait que ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, ça n'empêche pas qu'on pourrait peut-être, le Québec, vouloir faire notre réforme constitutionnelle pour l'autonomie du Québec, mais en même temps s'allier aux Autochtones, parce que si le Québec veut modifier la Constitution, les Autochtones vont probablement sauter dans le train puis en demander pour eux aussi, même s'ils en ont déjà, puis que ça va bien pour eux, ils vont vouloir en avoir plus, puis ça serait légitime. Donc, faut pas perdre ça de vue, d'où le fait que votre question est pertinente. Ensuite, si on voulait, dans une Constitution québécoise, ou plus largement, là, en droit québécois, en faire plus pour les Autochtones, effectivement, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, puis la Constitution de Bolivie, par exemple, est très intéressante. En même temps, au Québec aussi, on a des choses intéressantes, dont la Convention d'Abbé James. Donc, on a déjà au Québec des lois puis des traités qui assurent de l'autonomie puis du financement des nations autochtones. C'est sûr que c'est plus facile dans le Nord que dans le Sud, où les questions de cohabitation avec les non-autochtones se posent plus. Mais moi, ce que j'imagine, ce serait une espèce de loi cadre dans un premier cas, parce que c'est pas vrai qu'on va régler demain matin là, toutes les questions de traités puis de chasse puis de territoire. Là, c'est hyper complexe. C'est donc, bien, ouais. Faut vraiment être réaliste quand on parle du dossier autochtone. On peut être plein de bons sentiments puis vouloir tout leur donner, mais c'est vraiment plus compliqué que ça. Donc, la première étape que je verrais, c'est une loi cadre de dire, ben voici les grands principes. L'autonomie gouvernementale, les négociations de nation à nation, ce principe de subsidiarité, donc de dire, faut leur en donner maximum d'autonomie, mais quand c'est pas réaliste, parce que c'est un dossier hyper complexe, ben voilà, on peut pas toujours, on peut pas donner quelqu'un qui a pas les ressources humaines, les ressources financières pour gérer. Ben là, faut peut-être co-gérer, faut peut-être les aider avec des experts ou des ressources. Bref, principe de subsidiarité. Donc, on pourrait avoir plein de principes. Puis ensuite, inviter les nations autochtones à négocier sur la base de ces principes-là pour qu'il y ait des traités comme sur le modèle de la Convention de l'Abbé James. Moi, je verrais ce plan ensuite. Bon, évidemment, ça prendrait des décennies puis ça serait pas une baguette magique loin de là. Mais je verrais quelque chose comme ça. Et donc, puis cette loi cadre dont je parle, ça pourrait aussi être une partie de la Constitution québécoise. Mais pour autant où... Là où je suis plus réticent quand on parle de Constitution québécoise, c'est si on veut la rendre rigide. Si on dit on adopte une Constitution québécoise, par exemple par référendum, puis là on dit on peut plus la modifier maintenant sauf par référendum.
Okay, ouais.
Là j'ai des réticences parce que là les juges peuvent faire ce qu'ils veulent avec une Constitution. On le disait tantôt, même quand c'est précis, il reste qu'il y a beaucoup de pouvoir d'interprétation. Les juges sont en plus nommés par le fédéral. On pourrait peut-être aussi par ailleurs étudier la possibilité d'avoir un conseil constitutionnel puis d'enlever des compétences aux juges nommés par le fédéral. Ça, c'est une autre chose qu'on pourrait faire après si jamais la loi 21 ou 96 est cassée, mais c'est pas simple. Mais sinon, c'est ça. Donc, pour les Autochtones ou pour n'importe quelle question, c'est toujours dangereux de mettre ça dans une constitution puis ensuite de barrer la constitution à double tour comme la constitution canadienne parce qu'après ça, c'est un chèque en blanc aux juges nommés par le fédéral. Fait que dans une optique d'autonomie puis de promotion du français, on sait que les juges nommés par le fédéral font pas tant le boulot. Donc, c'est là que j'ai une réticence par rapport à la Constitution québécoise.
Puis, je crois que ça va être la question de conclusion pour terminer ça. Pour plusieurs Québécois, là, on le voit là, au travers des exemples puis des explications que vous avez données aujourd'hui par rapport à éventuellement peut-être une crise constitutionnelle, que la question constitutionnelle n'est pas réglée. Mais est-ce qu'on a la même perception au Canada anglais, au même du côté des nations autochtones, que la question constitutionnelle, même si la Charte de 82... que la question n'est pas réglée puis que c'est une question qui demeure d'actualité?
Ben, je pense que tout le monde au Canada s'entend pour dire que le fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution, c'est pas génial. Bon, il y en a qui vont dire c'est voilà, c'est purement symbolique, un jour ça se réglera, puis c'est pas si grave. D'autres vont dire non, c'est vraiment un immense problème démocratique, puis surtout les résultats de ça. Parce que, OK, le Québec a pas signé, c'est un peu symbolique, mais pourquoi il a pas signé? Parce qu'il n'y avait pas de pouvoir pour la langue, puis là, résultat de 40 ans plus tard, de pas avoir de pouvoir sur la langue, le français décline. Donc là, c'est un gros problème. Mais peut-être plus pour les francophones que les anglophones, quoi qu'il y a des anglophones francophiles qui peuvent être sensibles à ça. Donc, la question constitutionnelle est largement réglée, je pense, pour les anglophones, dans le sens où, voilà, ça leur convient, cette constitution-là, mais avec l'exception extrêmement importantes dont on parlait plus tôt, des provinces de l'Ouest, particulièrement Saskatchewan, Alberta. Je pense que pour eux, c'est pas réglé cette constitution-là, particulièrement la péréquation, ça semble pas faire leur affaire. Et les Autochtones, c'est pas réglé non plus. Comme je vous dis, pour des raisons tactiques, leur priorité, c'est d'utiliser le texte constitutionnel actuel pour aller chercher plus d'autonomie. Mais je pense pas qu'ils pensent que la constitution est parfaite. Au contraire, je pense que dans un monde idéal, là, ils voudraient probablement une réforme constitutionnelle pour avoir plus d'autonomie pour les nations autochtones.
Écoutez, je crois que ça fait le tour. C'est à moins que vous ayez des dernières petites sous-questions, puisqu'il nous reste environ une minute.
Oui, ben, je ferais peut-être une ouverture, parce que depuis 1867, ça a tellement évolué comment on conçoit nos sociétés. T'sais, avant, on parlait de Canadiens français à l'ensemble du Canada, les Laurentiens, toutes ces affaires-là ancestrales à une époque où la religion catholique était partout. T'sais. Puis aujourd'hui, on parle de nation québécoise. On parle de nations autochtones, on les reconnaît comme des humains, ce qui est la moindre des choses. Après ça, le Canada, qui était à l'époque les deux nations fondatrices, est plus dans une perspective multiculturaliste, voire post-nationale. Est-ce qu'on est capable, à votre avis, d'accorder ces visions-là qui semblent quand même contradictoires, somme toute, là?
Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, au Canada, avec un libéralisme, un multiculturalisme, au Québec, on dit des fois une optique plus républicaine, pas au sens américain, mais au sens français. Donc tout ça, il y a des vraies différences. Et je pense que la clé, bon, il y a essentiellement deux ou trois solutions. Il y a la solution qui a été souveraineté-association, de dire, bon, le Québec est différent, il devrait avoir le plus de pouvoir possible. En même temps, on veut garder un grand marché puis une possibilité de libre circulation des biens des personnes. Donc, c'était la souveraineté-association. Ça a échoué au niveau des référendums. L'autre possibilité, c'est vraiment de réformer le Canada. Puis moi, puis l'idée, c'est le fédéralisme, peut-être plus décentralisé, de dire, bon, mettons que les Canadiens veulent le multiculturalisme d'un océan à l'autre, mais est-ce qu'au Québec, on peut avoir un modèle différent? Est-ce qu'on peut avoir un multiculturalisme partout, sauf au Québec, en tout cas en termes de politique publique? C'est là où les Canadiens doivent faire un choix. Là. Soit il y a un petit côté autoritaire au Canada, on impose la Constitution au Québec, puis c'est pas grave, puis le français décline, puis c'est pas grave parce qu'on est dans un espèce de paradigme utopique de multiculturalisme où on est d'accord avec notre multiculturalisme, on accepte que le Québec soit un petit peu différent, même là-dessus, puis même si ça, c'est fondamental à l'identité canadienne. Donc, c'est de concilier 67, donc le fédéralisme, avec 82, le multiculturalisme.
Écoutez, chers auditeurs, autrices, ça fait le tour, en fait, pour l'heure du balado avec professeur Guillaume Rousseau, professeur de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Sur ce, on s'en va sur le jingle de la fin. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été, de nous avoir écoutés, en fait, pendant cette saison, pendant nos balados, d'être embarqués dans le projet, de réagir avec nous sur les réseaux sociaux. C'était vraiment plaisant pour notre saison. Pour le reste, je ne sais pas encore si on revient l'an prochain. Tout va dépendre des questions de maîtrise. Sur ce, merci, monsieur Guillaume Rousseau, d'être venu aujourd'hui, ce midi. Merci, Renaud et Mégane. Et sur ce, à la prochaine.